Bonjour docteur Foumakoy.
Bonjour.
Quelles sont les pathologies qui ont tendance à être négligées où il y a eu un recul de la prise en charge?
C'est d'abord tout ce qui est pathologie respiratoire chronique. Les patients asthmatiques, les patients qui ont été opérés des poumons, tous les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque et toutes ces choses, ce sont des patients qui ont tendance à être également négligés. Et les patients diabétiques.
Quel est l'impact du Covid-19 sur le comportement des patients et comment les convaincre à continuer de venir à se faire soigner?
À la première année, les patients ne venaient pas parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. Et ils ne venaient pas aussi à cause de la stigmatisation. Je vais vous citer l'exemple du Niger, à l'hôpital général de référence. Au moment de la pleine crise, vous aviez moins de 10 personnes qui osaient venir à l'hôpital, alors qu'avant ça, vous pouvez y avoir 200, 300 consultants dans la journée pour vous dire à quel point les gens ne voulaient plus venir à l'hôpital. Plusieurs campagnes de communication à la télé, à la radio, pour expliquer aux gens que l'hôpital a été scindé en deux, qu'on a défini des circuits, qu'il n'y avait aucun risque de se faire contaminer et tout ça. Les gens ont commencé à revenir petit à petit, mais on n'est pas encore à la fréquentation d'avant. On est toujours, disons, à 50-60% de fréquentation de l'hôpital. Des patients qui ont des pathologies chroniques et qui ne viennent plus à l'hôpital pour se faire suivre, ça les complique et ça nous rend la tâche beaucoup plus difficile. Et ça fait en sorte que finalement, lorsqu'ils se décident à venir à l'hôpital, ils ont besoin de lits, de soins intensifs. Et ces lits, malheureusement, sont soit occupés par des patients Covid graves, soit, si jamais vous avez un Covid grave qui arrive, on veut se les réserver.
Et justement, pour le personnel de santé, comment établir les priorités?
Il est très difficile parce que une vie, c'est une vie. Donc ce que nous essayons de faire, nous essayons de considérer tous les patients avec les mêmes degrés de priorité et on fait notre tri sans tenir compte du caractère Covid. C'est le protocole que nous avons mis en place au Niger dans notre hôpital et de par le congrès d'où nous venons de sortir, c'est pratiquement ce que fait tout le monde.
Les médecins urgentistes et les anesthésistes réanimateurs sont en première ligne de la lutte contre le coronavirus, contre le Covid-19. Donc quels sont les défis pour les soignants justement pour s'adapter à cette charge de travail supplémentaire?
Ça a montré vraiment qu'il est nécessaire dans tous les pays d'avoir quand même un gros pool de ces spécialistes-là. Et on a essayé de se réorganiser. D'abord, on a essayé de concentrer toutes ces spécialités-là. Malheureusement, ça n'a pas été vraiment possible très longtemps parce que les autres structures qui, elles, continuent à fonctionner normalement reçoivent un afflux chez elles et donc ont besoin de ces mêmes profils-là pour gérer leur urgence, pour gérer les interventions chirurgicales qui n'ont rien à voir avec du Covid. On n'est pas du tout assez nombreux. Je vous donne l'exemple du Niger. Alors, on est 21 médecins anesthésistes réanimateurs pour un peu plus de 23 millions d'habitants. Lorsqu'on a une surcharge de travail, on prend de plus en plus de risques. On a eu énormément de collègues qui, au bout d'un certain temps, ont fini par attraper la Covid-19.
Et comment on se réorganise alors?
Alors, en réa, voilà ce qu'on fait. Au début, on réduit le programme opératoire pour pouvoir récupérer les médecins anesthésistes qui s'occupaient normalement du bloc opératoire. Ça nous fait déjà quand même une bonne bouffée d'oxygène et de la main-d'œuvre de qualité. Si ça ne va pas, on arrête les programmes opératoires. Et nous l'avons fait pendant près de 8 mois où nous avons arrêté toutes les interventions chirurgicales non urgentes. Et lorsque vous êtes en insuffisance, en déficit de ressources humaines, vous n'avez pas le choix.
Et quelles sont les solutions alors pour améliorer la prise en charge?
Il va de soi qu'il faut former. Mais la formation diplômante, le spécialiste, ça prend du temps. Et Covid ne va pas nous attendre. Donc c'est vraiment la formation accélérée, le renforcement de capacités. C'est ça actuellement qui peut nous aider, ainsi que le rappel des réservistes. Mais maintenant, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir que l'on puisse avoir des centres de réponse aux grandes épidémies. J'imagine par exemple un très grand complexe qui serait les lieux d'accueil de prédilection en cas de grande catastrophe, en cas d'afflux massif de blessés, en cas d'épidémie ou de pandémie. Ça pourrait permettre qu'à chaque fois, la réponse sanitaire se fasse au niveau de ces centres-là en laissant les hôpitaux continuer à fonctionner comme ils le faisaient avant. De cette façon, on fait très facilement le distinguo entre la prise en charge des pathologies communes quotidiennes et la prise en charge des catastrophes.
Merci, docteur Foumakoy.